Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, vos réactions au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire est en deuil depuis hier. Les hommages sont unanimes pour saluer sa mémoire. Amadou Gon Coulibaly, désigné en mars dernier comme le candidat du RHDP, le parti au pouvoir à l'élection présidentielle. Alors, quelle image garderez-vous du plus ancien collaborateur du président Ouattara? Certes, en Côte d'Ivoire, l'heure est au recueillement, à l'émotion, mais très rapidement, une question va se poser. Qui portera les couleurs du RHDP en octobre? Le parti va devoir évidemment choisir un nouveau candidat. Le calendrier est extrêmement serré. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 31 juillet, dans 3 semaines. On en parle tout à l'heure. Vous nous appelez d'ici là, 33 9 693 693 70 et vos nombreuses réactions Facebook, WhatsApp, plus d'un millier de commentaires postés sur nos réseaux sociaux depuis donc l'annonce du décès du Premier ministre ivoirien. Mais d'abord, vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Mamadou, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan.
Bienvenue, vous êtes à Paris.
Oui, je
c'est
suis
bien
à Paris.
Ça. Et vous avez des questions sur la Mauritanie?
Ah oui, les députés mauritaniens ont convoqué l'ancien président pour faire la lumière sur la gestion du pays pendant ses deux mandats entre 2009 et 2019. Mmh. Donc, pourquoi le président actuel a-t-il ordonné une enquête parlementaire contre son ancien ami et allié de longue date?
Oui, c'est vrai qu'un an après la passation de pouvoir entre les deux hommes, l'ancien président est convoqué aujourd'hui même à l'Assemblée nationale devant une commission d'enquête parlementaire. Alors faut-il y voir effectivement un règlement de compte politique? Bonjour François Mazet.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI. D'abord une précision, concrètement, qui est à l'origine de cette commission d'enquête?
Alors ce n'est pas l'actuel chef de l'État Mohamed Razouani qui l'a demandé cette commission. C'était une revendication de l'opposition. L'opposition qui a toujours eu des relations difficiles avec Mohamed Ould Abdelaziz et qui voulait faire l'inventaire de son action. Finalement, les parlementaires de l'UPR, le parti au pouvoir, se sont associés à l'idée. Cette commission, elle a été lancée fin janvier. Elle est présidée d'ailleurs par le chef du groupe UPR à l'Assemblée, Habib Ould Dia. Depuis, les membres ont entendu un certain nombre d'anciens dignitaires, des ministres, des premiers ministres, et tous se sont défaussés en expliquant que le vrai décideur, eh bien, c'était le président Abdelaziz. Alors cependant, Mamadou, vous avez raison sur un point, en quelque sorte, c'est que bien sûr cette commission, elle n'a pas pu se mettre en place et travailler sans l'assentiment de l'actuel chef de l'État. Mohamed Oulcher Razouani, cela ne fait même pas un an qu'il est au pouvoir, et depuis il a montré des signes, disons, d'indépendance vis-à-vis de son ami de longue date qui avait complètement cornaqué sa campagne électorale l'an dernier. Le président Razouani, il a changé des ministres, il a changé des chefs militaires, il s'est assuré le contrôle du parti, il a aussi décrispé les relations avec l'opposition, comme le montre cette commission. Tout ça, on peut dire que c'est une manière de marquer son affranchissement, de ne plus être vu comme la marionnette d'Aziz. C'est l'accusation qui revenait souvent avant l'élection.
Mamadou, vous avez une autre question?
Ah oui. Sur quel sujet la commission d'enquête parlementaire souhaite-t-elle l'entendre?
Alors on ne sait pas spécifiquement, Mamadou, ce n'est pas dit dans la lettre que le président de la commission a envoyée au président Abdelaziz. Il est écrit « Vous avez été directement et nommément cité dans des faits et actes susceptibles de porter une très grave atteinte à la Constitution et aux lois ». Ce qu'on sait, c'est sur quoi ont été entendus les autres dignitaires déjà interrogés. Une dizaine de dossiers qui vont des revenus pétroliers, de la gestion des revenus pétroliers à la vente de domaines de l'État, en passant par les activités en Mauritanie d'une société chinoise de pêche, donc c'est assez vaste.
Ouais, reste à savoir jusqu'où peut aller cette commission parlementaire.
Oui, alors déjà, on ne sait pas si l'ancien président va se présenter tout à l'heure à midi, heure de Nouakchott. A priori, non. S'il refuse, est-ce qu'on va aller le chercher? Probablement pas. La commission, en tout cas, doit rendre son rapport d'ici à la fin de la session parlementaire, qui est à la fin du mois. Les députés diront alors ce qu'ils veulent faire de ces conclusions, et là, les analyses divergent. Est-ce que les parlementaires vont vraiment dénoncer des malversations commises par d'anciens ministres et par l'ancien président, alors que eux-mêmes ont toujours validé toutes les décisions et tous les budgets. Est-ce que la présidence va mettre des lignes rouges à ces recommandations et à quel niveau? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a ceux d'un côté qui estiment que faire de Mohamed Ould Abdelaziz un justiciable en le traduisant devant une haute cour qui serait mise en place pour la première fois de l'histoire du pays à cette occasion, eh bien, ce serait un signal politique extrêmement fort et ce serait très populaire en Mauritanie. Et puis, il y a ceux qui n'y croient pas du tout. D'abord, parce que transformer des délits économiques en haute trahison, ça peut être juridiquement un peu acrobatique. Et puis ensuite, et surtout, parce que les deux hommes, Rouhan, ont travaillé ensemble pendant des décennies, que Mohamed Razouani a été la cheville ouvrière des réformes sécuritaires d'Abdelaziz. Et donc, pour cela, eh bien, ils estiment que cette commission, c'est du bruit.
Affaire à suivre, donc. Et on verra déjà si, effectivement, l'ancien président se présente tout à l'heure à l'Assemblée nationale devant cette commission parlementaire. Mamadou, a-t-on répondu à votre question?
Oui, parfaitement. Merci, monsieur Wan.
Eh bien, remerciez surtout François Mazet du service Afrique de RFI. François, à bientôt.
À bientôt.
Mamadou, n'hésitez pas, rappelez-nous quand vous le souhaitez. 10h16 à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour, Bruce.
Bonjour, Wan, et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à N'Djamena, au Tchad. Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions? Bruce, êtes-vous
oui,
là?
Oui, le procès par contumance de 20 Saoudiens par... Allô?
Oui, il y a un petit décalage. Je vois qu'il y a un décalage entre mes propos et le temps que le son arrive dans votre combiné. Allez-y, je ne vous interromps pas.
Ok. Le procès par contumance de 20 Saoudiens pour assassinat s'est ouvert vendredi en Turquie, 2 ans après la mort du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul. Sur ce, j'ai 2 questions à savoir. De quelles preuves dispose la justice turque pour accuser ces 20 Saoudiens?
Oui, des Saoudiens jugés, vous le disiez à l'instant, par contumace, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas physiquement présents en Turquie devant les juges. Sami Boukhelifa, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI.
International.
Le service, j'ai dit quoi? Service Afrique, excusez-moi. Autant pour moi, effectivement, tout à l'heure, François était du service Afrique, le service international, Sami Boukhelifa. Ce procès a débuté la semaine dernière. Il y a eu à ce jour, pour l'instant, une seule audience. Il y en aura une autre dans plusieurs mois, je crois que c'est
en novembre.
Donc, voilà. on a le temps, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les 20 Saoudiens accusés, il y a quand même 2 proches du prince héritier. La justice, turque réclame contre eux la prison à vie. Et la question de Bruce est intéressante. Finalement, de quelles preuves dispose la justice turque?
Ben, s'il y a bien un pays aujourd'hui qui dispose de preuves tangibles dans cette affaire, c'est certainement la Turquie. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul était sur écoute. Les services de renseignement turcs disposent d'enregistrements audio clandestins. Alors bien sûr, ce ne sont pas les services secrets, les services de renseignement turcs qui les ont rendus publics directement, mais leur contenu a été en fait publié dans la presse turque par des journalistes qui sont proches du pouvoir. Et dans ces enregistrements, on entend l'équipe de commandos saoudiens en train de discuter de la façon d'exécuter Jamal Khashoggi et même de passer en revue son plan préparé vraisemblablement à l'avance et rappeler à chaque membre de cette équipe de commandos quel rôle il doit jouer exactement. Donc ces enregistrements ont été aussi publiés dans un rapport de l'ONU. L'année dernière, donc qui a été menée par la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires Agnès Callamard, et la CIA aussi donc a rapporté ses propos. Donc voilà, donc la CIA aussi a mis en cause, et les Nations Unies, enfin cette enquêtrice des Nations Unies, ils ont mis en cause le prince héritier Mohamed Ben Salman, l'homme fort d'Arabie Saoudite, directement. Donc vous l'avez dit, sur les 20 personnes qui sont jugées à Istanbul, il y en a 18 qui sont directement impliqués, 2 qui sont les proches de Mohamed Ben Salman qui seraient davantage les commanditaires, et les autorités turques les ont vraisemblablement bien identifiés, même si leur procès aujourd'hui se déroule par contumace.
Donc les preuves, ce sont des enregistrements d'écoute téléphonique, des vidéos, des témoignages également du personnel turc hein, qui travaillait et qui travaille encore au consulat saoudien. Bruce, vous avez d'autres questions?
Oui. Comment ce procès influe-t-il sur les relations entre la Turquie et l'Arabie Saoudite?
Disons-le, Samy, les relations étaient déjà assez tumultueuses avant cette affaire.
Donc, c'est vrai qu'en 2018, année de l'assassinat de Jamal Khashoggi, cette affaire provoque une crise diplomatique entre Riyad et Ankara. Mais avant cela, les relations étaient déjà très très tendues parce que la Turquie, on le sait, c'est un soutien de poids des frères musulmans. Et les frères musulmans, cette confrérie, c'est tout simplement la bête noire des autorités saoudiennes. Et il y a plein d'autres sujets de discorde, et il y a l'Iran, il y a le Qatar, il y a le dossier palestinien. Donc les deux puissances régionales, Turquie d'un côté et Arabie Saoudite de l'autre, sont sur des positions différentes sur ces questions-là. Et donc en septembre 2018, avec ce meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au sein du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, donc toute cette affaire n'a pas arrangé la situation, et on peut dire que on peut s'attendre à ce que ce procès contre ces 20 Saoudiens pourrait dégrader davantage les liens entre les deux pays.
Le parquet d'Istanbul, en tout cas, réclame contre eux la prison
à perpétuité.
À vie, effectivement. Prochaine audience, le 24 novembre, pour être précis. Bruce, on a répondu à vos questions ?
Parfaitement.
Eh bien, on remercie Samy Boukhelifa du service international de RFI.
C'est la même famille, international, Afrique.
Effectivement. À bientôt, Samy.
À bientôt.
On repasse au standard, au 33 9 693 693 70. Je m'étais engagé hier, en fin de première partie, à le prendre ce matin en direct. Mamadou Bilou, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Juan Gomez.
Voyez, je tiens mes promesses. Hier, faute de temps, vous n'avez pas pu poser vos questions. Donc voilà, on vous redonne la possibilité d'être avec nous ce matin. Des questions sur l'élection présidentielle aux États-Unis.
Bien, bonjour à tous vos auditeurs. Le rappeur milliardaire américain Kanye West a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de novembre prochain. Mmh. Pourquoi Kanye West se présente-t-il à l'élection, sachant qu'il a plusieurs fois pris position en faveur de Donald Trump ?
Ah, bonne question, effectivement. Bonjour, Elsa Grassi.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Strasbourg. À 4 mois du scrutin, le rappeur et homme d'affaires a effectivement annoncé sa candidature par tweet, dimanche pour être précis. Kanye West à la présidentielle, c'est un coup de com' essentiellement ou pas ?
On peut se poser la question, c'était un grand mystère jusqu'à hier, puisque Kanye West avait annoncé sa candidature le 4 juillet, c'est-à-dire le jour de la fête nationale états-unienne, dans un tweet, donc oui, un peu à la mode de Trump. Puis plus rien, aucune explication, jusqu'à hier matin, où Forbes a publié un long entretien qui nous éclaire un peu plus sur sa candidature. Alors, Kanye West, il dit ne plus soutenir Trump, avoir enlevé le chapeau au MAGA. Il a surtout été déçu par sa réponse aux manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, le fait que Trump se soit réfugié dans un bunker au plus fort des manifestations notamment. Et Kanye West pense aussi que l'ex-vice-président Joe Biden n'est pas assez spécial pour diriger l'Amérique. Mmh. Il attribue enfin sa candidature à la volonté de Dieu. Il faut dire que depuis l'an dernier, sa carrière a pris un tour très religieux.
Oui, il organise des offices religieux.
Voilà, les Sunday Services, qui sont des offices rap, oui. Mm-hmm. Et on peut quand même être surpris à plusieurs titres, bien sûr, puisque ses critiques à l'égard du président sortant sont somme toute assez timides, et il disait encore le soutenir en mai dans une interview donnée à GQ, ce qui alimente des soupçons de ceux qui voient dans sa candidature une tentative pro-Trump, en fait, pour affaiblir Joe Biden en détournant les voix d'électeurs africains-américains. D'autant qu'on a récemment appris que Kanye West faisait partie des bénéficiaires d'une aide financière accordée par le gouvernement américain à certaines entreprises pour les épauler dans le contexte de la crise sanitaire. Donc bien sûr, Kanye West nie faire tout cela pour Trump. Et lorsqu'on connaît sa carrière et la façon dont il a pu prendre des tournants assez abrupts et improbables, il faut bien le dire, on peut pas vraiment être surpris d'être surpris. D'autant qu'il avait déjà annoncé sa candidature en 2015, son intention au moins d'être président, candidat en 2020, lors des MTV Music Awards, et puis il avait renouvelé ce souhait après son entretien à la Maison Blanche avec Trump fin 2018, mais là il disait plutôt viser 2024.
Mais il se présentera, s'il se présente vraiment, il se présentera en candidat indépendant, si je vous comprends bien.
Oui, alors il a annoncé dans l'entretien à Forbes qu'il se présentait comme candidat du Birthday Party. Ce qui est un jeu de mots entre fête d'anniversaire et partie d'anniversaire. Il a dit que s'il était élu, ce serait l'anniversaire de tout le monde. Mais le problème, c'est que même en candidat indépendant ou en candidat du birthday party, il va avoir vraiment de gros problèmes à valider sa candidature. Ce n'est pas une candidature officielle pour l'instant. Et même si dans son entretien, il dit s'être entouré d'experts pour explorer les recours, il semble ne pas avoir engagé de procédure pour figurer effectivement sur les listes des candidats à la Maison Blanche.
Oui, puisque le calendrier est très strict. Dans certains États, je crois que la date pour déposer la candidature est déjà dépassée.
Oui, absolument, dans plusieurs États.
Et voilà, et dans d'autres États, il a jusqu'au début de septembre. Donc vraiment, il a quelques semaines pour officialiser et surtout décrocher des soutiens, puisqu'il faut recueillir, je crois, dans chaque État, plusieurs dizaines de milliers de signatures pour officialiser cette candidature. Elsa Grassi, merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Mamadou Bilou de Conakry. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'Université de Strasbourg. Hugo Moissonnier du service des sports nous rejoint. Bonjour Hugo.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On va parler football, tiens, des questions sur Kylian Mbappé. Qui avons-nous? C'est Nimir. Bonjour Nimir.
Bonjour Monsieur Juan Gomez, bonjour à tous les gens de RFI.
Vous êtes à Bouéa au Cameroun, nous vous écoutons.
Ok, c'est le Real Madrid ne semble plus caché les envies de voir Kylian Mbappé rejoindre son effectif. Mais le time adopté par le club n'est pas clair. Alors Monsieur, j'aimerais savoir, quelle est la stratégie du Real Madrid pour ce transfert? Et pourquoi attendre encore 2 ans?
Alors, Hugo Moissonnier, c'est vrai que ce n'est un secret pour personne. Hein. On sait que le Real Madrid rêve de décrocher Kylian Mbappé. Quelle est la stratégie du club? L'auditeur nous dit que le timing n'est pas très clair.
Alors, il parle aussi d'attendre deux ans 2022. Oui. Pourquoi 2022?
Oui.
Parce qu'en 2022, le contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain prend fin. En tout cas, le contrat actuel. Et quand un contrat prend fin, eh bien, le joueur, il peut choisir de s'engager avec un autre club sans que ce club ait besoin de verser une indemnité de transfert. Et dans le cas de Kylian Mbappé, elle serait très élevée au club précédent. Franchement, ça, c'est un scénario pour fans du Real, un peu rêveur, un brin rêveur. Ça ne se passera probablement pas comme ça parce que, tout simplement, le PSG, qui a déboursé pas loin de 180 millions d'euros pour attirer Kylian Mbappé il y a quelques années, alors qu'il n'était qu'un espoir, voudra récupérer une jolie somme, quitte à lâcher son prodige. Il a largement confirmé, depuis qu'il a rejoint le PSG, il est devenu champion du monde avec la France, il est devenu meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1 avec le club parisien, 90 buts, on s'en va à Paris-Sion, il n'a que 21 ans, il est considéré comme le futur grand joueur, bref.
Et cette saison, PSG, il est quand même quatrième meilleur buteur européen, toute compétition confondue.
Alors qu'il ne joue plus depuis mars.
Effectivement.
Donc, si vous voulez, vous n'allez pas le laisser partir gratuitement, si vous êtes à la place du PSG, j'en parle un petit peu comme du marchandise.
Malheureusement, les joueurs de football ont une valeur marchande. Donc
voilà, donc le Real Madrid peut, dans un monde idéal, espérer attendre la fin du contrat pour ne verser qu'une prime à la signature. Et encore, certains médias parlent d'une prime à la signature de 100 millions d'euros. Vous voyez, il pourrait dépasser Kanye West, même en termes de fortune personnelle. Mais très honnêtement, le PSG va tout faire pour que le Real Madrid soit obligé de verser une grosse somme afin d'attirer Kylian Mbappé.
Ouais. Vous aviez une dernière question, Nimir?
Oui, effectivement. Comment le PSG se positionne-t-il face à ses convoitises? Et quel serait sportivement le choix le plus pertinent de Mbappé?
Ah, Mbappé ferait-il bien de rester à Paris ou aller au Real? On y répond dans un instant. D'abord, le PSG, évidemment, j'imagine que Paris n'a pas dit son dernier mot. Vous le
disiez. Non, et il y a plusieurs possibilités. Alors, c'est simple. Soit on le vend maintenant pour toucher une très grosse somme à 2 ans de la fin du contrat. Vu le contexte, crise sanitaire, Ligue des Champions un peu bizarre qui arrive au mois d'août. Clairement, c'est improbable. On peut le vendre l'été prochain, 1 an de la fin de son contrat. On n'en tirerait pas forcément à très bon prix. Et Mbappé et le Real Madrid sera en position de force à 1 an du terme du contrat. La troisième solution, c'est celle qui est clairement privilégiée par le club parisien, le prolonger et garder une marge de manœuvre, augmenter sa valeur. Selon l'observatoire du football CIUS, si Mbappé venait à prolonger son contrat, il serait évalué à 281 millions d'euros. Vous imaginez, il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire, sachant que le plus cher, c'est déjà un joueur parisien, à savoir Neymar. Donc là, les négociations sont en cours. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'annonce et de nouvelles à vous donner, mais clairement la priorité des dirigeants parisiens, c'est de prolonger Mbappé, qui pourrait être tenté de rester quand même encore un peu à Paris. À Paris, après tout, il joue,
il a tout intérêt sportivement à rester à Paris ou plutôt d'aller jouer au Real?
Alors, si vous allez au Real, effectivement, vous, en termes de stature, vous changez de dimension. Le Real, c'est le plus grand club, en tout cas, c'est celui qui a gagné le plus de Ligue des Champions, rien que 4 dans la décennie écoulée. Mmh. C'est forcément, ça pourrait être une consécration, mais en football, tout va très vite. Si le PSG se met à enchaîner les victoires en Ligue des Champions, vous pouvez être tenté de vous dire que l'histoire s'écrira plutôt du côté de la capitale parisienne. Et puis, il y a des joueurs qui ont beaucoup perdu à signer au Real. Récemment, à Eden Hazard, il n'a pas vraiment confirmé son statut en allant à Madrid.
Merci beaucoup, Hugo Moissonnier. À bientôt, Nimir.